Ceci dit, cela dit,
cela dit. Aujourd'hui, Patrick Lopin lit des extraits de son livre « Ravin », paru aux éditions de La Rumeur Libre.
Le vieux avait des manières bien à lui de dénicher des bicoques. Nous, les cinq gamins, sagement serrés dans l'attraction, regardions bouche bée et emplis d'émerveillement le paysage bien réel défilé derrière les vitres de la bagnole. Il finissait par s'arrêter dans quelque hameau isolé ou à l'extrémité d'un champ et disait « C'est ici ». Maman descendait la première et regardait. De grandes murailles lézardées couvertes de pierres et de glycines et des balcons à ciel ouvert. Depuis le début, j'ai compris qu'ils fuyaient quelque chose. Ils étaient comme deux êtres isolés, sauvages, dans l'apique de leurs sentiments. Une bonté engloutie, une pâleur diaphane de zinc amoché, de corde qui s'effiloche et va casser, luisait dans le miroir de leur vie réunie. J'ai su, d'entrée de jeu, qu'on n'aurait jamais de place. Nulle part. Aucun jour. Où que ce soit. L'angoisse entra très tôt dans mon langage. Même pas de l'incommunicable, mais un élément autre, incontrôlable. Peur contre le pilier du préau. Peur dans la file d'attente des enfants qui tendent leurs mains vers le gobelet de chocolat qu'on leur donne à 4 heures. Je cherche mon frère et ma sœur des yeux, je ne les vois pas. Je suis perdu, vraiment. Je ne m'étonnais de rien, pourtant, comme si j'avais déjà vécu ce monde et son atroce état d'indifférence. Il existait pour moi un écart insurmontable entre le corps et les mots. Je ne le franchissais pas. Puis, un jour, les violences sont venues. J'ai perdu le goût de vivre et de parler. C'est de là que me vient le sentiment qu'une aphasie ravage le monde, que la solitude est éternelle et le néant le moindre mal. Après, on se reposait sous les ténèbres clairsemées d'arbres et longtemps je n'ai cherché à écrire que les pages de ce seul et même silence lancinant qui cognait dans mes tempes pour le rendre un peu humain, enfin supportable peut-être. C'est de là que me vient ce sentiment terrible qu'on n'ait rien à se dire, car rien ne sera à la hauteur de ce qu'il faudrait dire depuis ce jour d'entière destruction où je n'eus plus goût à tourner les pages de la vie. Sans penser à rien, sur la table ou par terre, il ramasse des miettes et des légendes, des pauvretés pour rien. Il se crée une parenthèse, un suspens, quelque chose de séparé qui ne cesse pas de tomber. C'est la venue des mots et de leurs inquisiteurs fantômes. Que faire? Rester silencieux. Mais jusqu'où? Jusqu'à quand? L'aigle des fougères gagne en profondeur. Quelqu'un qui penche sa conscience sur du papier a tout de suite affaire à ça, à cette archaïque du danger, à cet éternel retour de l'exilé volontaire. À l'intérieur des mots, la sensitive débarque son frisson. Dans les campagnes, j'entendais tout le temps « T'es encore en train de lire, ben tu vas te faire mal aux yeux, à la tête, alors ben ce que t'es compliqué, vrai, ce que tu dois t'ennuyer pour être fourré comme ça dans tes bouquins. » J'essayais de travailler pendant que la lumière m'habitait. Je ne voulais pas rester balle de plomb ou ballot de chiffon. Je voyais bien la fréquence sans auditeur du monde et le réel comme un trou entre les clématites et la palissade de la grille. Je voyais le froid du dehors avec des tailles fragmentaires, vision indirecte suivie d'aspects insolites. Le baromètre des isolés et la violence indivise du spectacle sur les talus de neige et la terrible, la brutale réalité inconsciente confirmée par les cris d'enfants et les folies à découvert. Ils étaient plutôt habitués à voir des enfants prendre un livre qui leur ferait toute l'année. Et encore, lequel lire après? Un vrai dilemme. Pour moi, l'année 64, ce furent Moby Dick, Balzac et Stendhal, Les Illusions perdues, Le Rouge et le Noir. Quel bonheur, j'étais romanticiste. Dans ce milieu navrant et hostile, il fallait du courage pour aimer Mosca, la Sanseverina, pour tenir au plus près le clair obscur de la chair parlée. Tout est vrai quand on aime. Mais les gens qui restent sourds au livre écrit en eux ont le goût pluvieux d'une chose ensevelie, vécue comme une punition. La lecture, c'est toujours trop tôt ou trop tard. Nous étions cousus sur la communale. Un anachronisme rétif, un goût invincible pour les petits bruits du monde, pour leur côté faible, pour la rose d'une hélice de camelot qui tourne sa pâle d'effroi en été ou retient en cage un geste buriné de palme lente en hiver. Nous étions littéralement fous des campagnes, de la vorgine, du liseron, de la chenaille. Je vois les têtes de gosses qui s'éloignent à une vitesse inimaginable. Gus, Nello, Jovan, ils font des métiers soufflés sur l'échiquier des migrants. On se revoit, on dit « Théo, qu'est-ce que tu fais ?»« Je sais pas, je suis maçon, forestier, je pars en déplacement, je suis sur une plateforme de pétrole. » Nous, on aimait les vaches à l'étable. Mes frères ne quittaient jamais Émile quand il les appelait par leur nom et les guidait de sa voix, forte le troupeau à la trique en hurlant. Harvey, Huguette, Marguerite, Réjeanne, Yolande, Suzanne, Liliane, Marlène, Capucine, on les connaît toutes. On leur parle comme à des personnes. C'est intéressant de parler avec les vaches. Elles ont toute une souffrance. C'est du morse à demi-dents. Elles se mettent en colère quand on les change de place. Leurs naseaux souffrent des tempêtes, elles heurtent à grands coups de tête et de bélier les râteliers, elles dégurgitent le foin dans la bave, elles font un bouquin du diable. On s'assied sur un tabouret, à un pied, on tasse un peu la paille et le purin, on fait glisser le seau sous leur pie et on tire bien fort et on continue, le lait gicle. Par le soupirail passent des musiques, Adamo, Dalida, bientôt ce seront Françoise Hardy, les Beatles. Ces années-là, je voyais ma sœur revenir épuisée de l'usine. Elle pleurait parce que, quand elle commençait à avoir de bons rendements sur les lignes de soudure, on la changeait de chaîne pour qu'elle redescende au bas de l'échelle. Elle perdait ses primes. L'univers est un bien, mais pour certains, il faut attendre le dimanche matin pour s'en apercevoir et l'apprécier, pour voir le linge qui sèche dans le pré. On recoule l'ourlet aux franges. Histoire de se détendre, on ira marcher dans la montagne. On se dit qu'on mettra les vieilles chaussures. En attendant, c'est encore dimanche et seulement le matin. On s'étire dans les draps baignés de soleil. Comme d'habitude, on entend les radios à tue-tête, les compagnons, Marjolaine, Hello, le soleil brille. Puis une odeur de civet de lapin et de pommes rissolées qui mijotent passe la porte de la cuisine. Il est l'heure de se lever. Je me disais, sans oser me l'avouer, qu'elle avait peut-être de la chance, puisque le bonheur qu'on lui ôtait maintenant brutalement, elle avait moins de 16 ans, elle le retrouverait au centuple dans sa vraie vie, d'après. Mais, en vérité, pas plus qu'on ne peut comprendre un seul jour ce qu'est vraiment la philosophie. On ne peut rien faire pour ce qu'on aime et qu'on comprend trop bien de l'intérieur. La vitesse de songe des malheurs volatilise le corps des traces. L'espérance, c'est fragile comme de la porcelaine. Alors, un jour, on renonce une bonne fois pour toutes. On serre ses poings dans ses poches, on triture son mouchoir entre pouce et index. Ça ressemble à de la friture qu'on balance dans un seau, ou à la gueule artésienne des poissons rouges qui respirent le perdu au fond d'un bocal. Le ciel visite même pas les pauvres gens. Tout au mieux, du vieux mis à neuf. Seuls les soldes, les acomptes, les traites, visitent à main nue, mais finissent par brimer du même côté. C'est du sûr qui va faire chavirer la barque sans crier gare. Après, ce sera trop tard. Un chandail déchiré sur la palissade prend un goût obstiné de colère pâlie de rage. Les petits vont grandir trop vite. Ils auront le cœur industrieux des abeilles. Ils vont faire plouf dans la grande mare. Et ça sera leur plus grand plongeon, le dernier jour de leur enfance, la plus belle page des erreurs de leurs images. Je me porte à la fin. Est-ce que je devais écrire ? Je ne sais pas. Je me suis mis à écrire un jour où j'étais cerné par l'insignifiance et le banal. Dehors, derrière la vitre, la pluie s'apprêtait à tomber. Il se fit dans le ciel un gris ombrageux avec l'impression d'une main plane dans les nuées. Est-ce que quelqu'un m'a appelé ? Un passager, un messager, impossible de dire. Je suis passé de l'autre côté. Je suis passé du côté du vide de la pluie qui allait tomber. Je suis devenu un peu quelque chose de cette chose en verticale de chute. On se méprend sur ses propres traits de caractère quand on se mêle de s'engager dans l'écriture. J'ai essayé au mieux de me défaire de la chose poésie et de l'idéal du beau, du bien, de la poissarde, de l'artificiel, du totémisme à bon compte. La poésie me donne souvent l'impression de quelqu'un qui prétend se précipiter dans un Éden sauvage alors qu'il s'agit tout au plus des strictes limites d'un parc municipal. La poésie est la chose la plus vraie et la plus nécessaire, mais dans un autre monde, écrit Baudelaire. J'aime penser que ce soit le monde où on invente la tonalité non esclave de l'autre langue. J'ai voulu descendre dans cette vague la plus profonde où un enfant pressentit comment des blessures de mémoire peuvent rejeter des êtres au bord du monde. J'ai l'impression d'être souvent passé par cette limite condensée et brutale où l'angoisse filtre les rêves de mort jusqu'à ce qu'on se taise. On se tait, on ne dit rien, et je crois qu'on a tort. La folie s'empare des rêves et des mots morts pour les tramer d'insignifiance jusqu'à la corde. Bon. On se grandit en miroir de ce qu'on aime, mais où est la ligne de flottaison pour celui qui, voulant ne plus être envahi, se protège de la peur en s'anesthésiant, qui descend très bas dans le repli. Une folie vivante le brûle ou le gèle sur pied à toute heure, c'est selon. Son tort, c'est de vouloir donner un nom à l'innommable. Pour en faire quoi ? L'ensevelir, l'écrire, c'est un mourir à tort. On se fait moquer par la vie à cause de cette bêtise qui prête des pitiés aux âmes petites. Petit frère, petit cœur, petite chose qui crie dans les cailloux blancs jetés dans le vent. À cause de cette maladresse de compassé, de ces airs de grands combattants du gisant, de l'informe, on se trouve soi-même un peu ridicule avec ces grandes attitudes. On se dit que ce n'est même pas sûr que l'esprit existe, peut-être rien que des réflexes déjà visités par la mort. On s'attache au vieux mal, le pal d'effroi est le gardien le plus sûr, il repousse le langage de ses deux mains.
Ceci dit,
cela dit.